Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés entre autres. Indonésie et Japon voient le potentiel d'une coopération ARM dans 3 secteurs. BRN encourage les pays à optimiser la technologie de l'IA pour l'atténuation des catastrophes. Ambassadeur américain estime que l'OCDE peut aider l'économie indonésienne à croître de 8%. Indonésie n'a aucun problème à envoyer des troupes en Palestine. Consul indonésien invite les enfants des travailleurs migrants à Tawau à ne pas abandonner facilement. Corée du Sud soutient le programme gouvernemental du président Prabowo. À Harvard, Taruna s'engage à exposer la TMP à l'avenir du traitement des maladies. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. La coopération en matière d'échange de carbone entre l'Indonésie et le Japon dans le cadre d'un accord de reconnaissance mutuelle ARM peut couvrir 3 secteurs principaux, à savoir la foresterie, l'énergie et les déchets. Lors d'une discussion au pavillon indonésien de la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 en Azerbaïdjan, mercredi 20 novembre, le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts LHK de la République d'Indonésie 2019-2024, Alu Dohong, a déclaré que la coopération ARM entre les deux pays était menée sur la base d'un engagement à atteindre les objectifs de réduction des émissions fixés dans les documents climatiques de chaque partie sur la contribution déterminée au niveau national, NDC. Alu a déclaré que ces 3 secteurs ont un énorme potentiel pour la mise en œuvre du MRA qui est conformément au cadre de l'article 6.2 de l'accord de Paris. La signature du document MRA lui-même a été réalisée le 18 octobre 2024 par le ministre indonésien de l'Environnement et des Forêts et signée le 28 octobre 2024 par le ministre japonais de l'Environnement. L'Indonésie elle-même dispose déjà d'un système de certification, à savoir l'Indonésie GHG, Émission Réduction Certification, SPEI, et le Japon avec le Joint Crediting Mechanism, JCM. L'Agence nationale de recherche et d'innovation, BRIN, encourage le pays à optimiser la technologie de l'intelligence artificielle, IA, pour accroître les capacités d'atténuation des catastrophes en Indonésie. Mais Gopinandito, député du BRIN chargé de la politique de développement, a déclaré à Antara Jakarta mercredi 20 novembre qu'à l'avenir, la technologie de l'IA combinée aux mégadonnées géospatiales pourrait être intégrée et analysée de manière globale pour produire des simulations de catastrophes. Mego a expliqué que l'utilisation d'IA telle que ChatGPT enrichit le big data avec un accès à tout moment et en tout lieu, y compris les données géospatiales provenant de satellites de télédétection. Il a poursuivi en ajoutant que les données de télédétection obtenues à partir de diverses sources, y compris les satellites, seront combinés pour créer un programme de simulation capable de produire des prévisions de catastrophes. Mais Go estime que ces prévisions serviront plus tard de base aux pays de la région Asie-Pacifique pour concevoir de meilleures mesures d'atténuation des catastrophes. Selon Mego, l'utilisation de l'IA dans ce cas contribuera à la gestion des risques afin qu'à terme, la communauté puisse être mieux protégée et minimiser le nombre des victimes. En dehors de cela, cette technologie aide également à identifier les zones qui seront plus gravement touchées afin que de meilleures préparations puissent être faites par le gouvernement central, les ministères, les institutions concernées, les gouvernements régionaux et la communauté. L'ambassadrice des États-Unis en Indonésie, Kamala Shirin Lahdir, estime que l'adhésion de l'Indonésie en tant que membre de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE pour aider la croissance économique à atteindre 8% par an. L'ambassadeur Lahdir, lors d'une conférence de presse à l'ambassade des États-Unis à Jakarta mercredi 20 novembre, cité par Antara, a déclaré que les États-Unis soutiennent fermement l'accélération de l'adhésion de l'Indonésie à l'OCDE, qui est une forme de réforme économique. Selon lui, grâce aux diverses réformes menées par l'Indonésie, tant dans les systèmes juridiques, réglementaires et économiques, elle peut contribuer à la croissance économique ciblée par le président Prabowo. Lahdir a déclaré qu'il avait rencontré un certain nombre d'entreprises du secteur privé américain intéressées à investir en Indonésie. Il pense que l'adhésion à l'OCDE ou même les mesures en vue d'une telle adhésion soutiendront des investissements beaucoup plus importants de la part des entreprises américaines et d'autres investissements directs étrangers en Indonésie, ce qui contribuera à la croissance économique de l'Indonésie. Le vice-président de la Commission 1 du Parlement indonésien, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, a déclaré que ce ne serait pas un problème si l'Indonésie participait à l'envoi des forces de maintien de la paix de l'ONU en Palestine, car elle avait l'expérience de l'envoi de troupes de garde de sécurité. Cependant, Dave, dans une déclaration reçue à Jakarta mercredi 20 novembre, a rappelé qu'un accord pour résoudre le conflit israélo-palestinien devrait être la priorité afin que les troupes de paix déployées par l'Indonésie ne soient pas piégées dans le conflit. Auparavant, le président indonésien Prabowo Subianto avait déclaré l'engagement de l'Indonésie à soutenir le renforcement de la force de maintien de la paix des Nations Unies, en particulier en Palestine. C'est ce qu'a exprimé le président Prabowo Subianto lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Rio de Janeiro, au Brésil, dimanche dernier, 17 novembre. En réponse à la déclaration du président Prabowo, Guterres a apprécié le rôle de l'Indonésie dans le soutien à la mission de la force de maintien de la paix des Nations Unies. Concernant la question palestinienne, le secrétaire général de l'ONU a convenu avec l'Indonésie d'encourager la formation d'un État et la détermination indépendante de l'indépendance du peuple palestinien. Le consul indonésien à Ottawa, Aris Heru Tomo, a invité les enfants des travailleurs migrants indonésiens PMI qui suivent une éducation non formelle au Centre d'apprentissage communautaire CLC de Tawau Sabah, Malaisie, à ne pas abandonner facilement face aux défis. Dans une déclaration reçue par Antara à Kuala Lumpur, mercredi 20 novembre, Aris a déclaré que son parti avait également demandé aux enfants de ne pas jamais abandonner lorsqu'ils perdaient dans un concours académique. Il a exprimé lors de la clôture de la mise en œuvre de l'APSI, ou bien 2024 Achievement and Art Appreciation, au niveau de l'école primaire, hors ligne au consulat indonésien à Tawau. Aris a déclaré qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui considèrent la réussite de l'apprentissage uniquement sous l'aspect académique, mais pas dans les domaines non académiques tels que les chanteurs, les danseurs, les peintres et les sportifs. En fait, de nombreuses professions qui se développent actuellement dans la société proviennent des réalisations dans des domaines non académiques. En 2024, pas moins de 407 étudiants de 32 centres d'apprentissage communautaire, CLC, de la zone de travail du consulat indonésien à Tawau participeront à 11 types de concours, à savoir le comptant, la lecture de poésie, les discours des sciences, les mathématiques, le chant, dessin, formes physiques, art et artisanat, pencaksilat et danse. Le vice-président de la Commission 1 du Parlement indonésien, Dev Akbarsyah Fikarno Laksono, a déclaré que l'ambassade de Corée du Sud soutient les programmes du gouvernement du président indonésien Prabowo Subianto et qu'une éventuelle coopération stratégique pour ces programmes est même en cours de discussion. Dev, dans une déclaration reçue à Jakarta mercredi 20 novembre, a déclaré que ce soutien comprend des programmes étudiants gratuits, le développement de la capitale indonésienne IKN, l'accélération du développement des infrastructures ainsi que le renforcement des capacités dans divers domaines. Cela a été discuté lorsque Dev a reçu une visite honoraire du chargé d'affaires de l'ambassade de Corée du Sud, Park Soo-deo, mardi dernier, 19 novembre. Il a souligné l'importance d'accélérer le processus d'approbation du Parlement indonésien concernant l'accord afin que le nouvel ambassadeur sud-coréen puisse immédiatement servir en Indonésie. En dehors de cela, d'autres coopérations bilatérales ont également été abordées, notamment le développement industriel, la coopération dans les secteurs du tourisme et de la culture, ainsi que le développement des capacités dans divers secteurs. L'Agence indonésienne de surveillance des aliments et des médicaments BPOM a déclaré que la pharmacologie de thérapie cellulaire et génétique ATMP constitue une percée qui deviendra la technique de traitement la plus importante dans le traitement des maladies dégénératives et malignes, en particulier du cancer et des troubles congénitaux ou génétiques. C'est ce qu'a déclaré le directeur du BPOM, Taruna Ikrar, lors d'une conférence publique à l'université Harvard Boston États-Unis, mercredi 20 novembre. Cité Parantara, Taruna a déclaré que l'application de cette thérapie a montré des résultats très encourageants et que certains d'entre eux sont encore au stade de la recherche pour garantir sa sécurité et son efficacité, ainsi que pour réduire les effets indésirables. Il a donné l'exemple des essais cliniques sur le glioblastome ou le cancer du cerveau. À l'avenir, la thérapie cellulaire et génétique deviendra la découverte la plus importante de l'histoire du traitement médical. Selon Taruna, il s'agit donc d'un nouvel espoir pour des millions de personnes atteintes de maladies héréditaires et dégénératives pour lesquelles il n'existe actuellement aucun remède. Taruna a ajouté que des études supplémentaires pour étudier et affiner les résultats discutés sont nécessaires pour valider la faisabilité de la thérapie cellulaire pour le traitement du glioblastome. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique dont le titre est « Le consulat général d'Indonésie à Johor Bahru explique la vision du nouveau gouvernement au Conseil d'État de Johor ». Le consulat général d'Indonésie à Johor Bahru en Malaisie a expliqué la vision et la mission du nouveau gouvernement indonésien à 22 membres du Parlement du Conseil d'État de Johor lors d'une réunion au bureau du consulat général d'Indonésie à Johor Bahru. Rapporté par Antara, mardi 19 novembre, le consul général indonésien à Johor Bahru, Sigit Widianto, a déclaré que la réunion visait à fournir des informations aux membres du Conseil d'État de Johor concernant la vision et la mission du président Prabowo Subianto et du vice-président Gibran Rakabuming Raka et sa pertinence dans les relations entre l'Indonésie et la Malaisie, en particulier Johor. En dehors de cela, le consulat général indonésien à Johor Bahru a également fourni des informations en ligne aux membres du conseil sur les efforts visant à protéger les citoyens indonésiens. Le consul général Sigit a expliqué la vision du gouvernement actuel, à savoir, ensemble avec l'Indonésie, à progresser vers une Indonésie dorée 2045 et à Statista aux 8 missions principales. Il a également expliqué la compatibilité d'Astatita avec la vision Johor Forward Agenda 2030 aux membres du Conseil d'État de Johor présent. Selon Sigit, de cette compatibilité découle au moins 4 domaines de coopération qui peuvent être encouragés par l'Indonésie et le Johor. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la qualité humaine, du développement des infrastructures, du développement des relations culturelles et du tourisme. Sigit a également mentionné les relations étroites entre le président Prabowo et le sultan de Johor, actuellement roi de Malaisie, Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Selon lui, la compatibilité de la vision et de la mission ainsi que les relations étroites sont des modalités fortes pour que les deux pays, en particulier Johor Bahru, renforcent leur coopération mutuelle. Lors de la réunion de jeudi dernier, 14 novembre, Sigit a déclaré qu'il avait également encouragé les membres du Conseil d'État de Johor à maximiser le service en ligne Ksatria, un chatbot basé sur WhatsApp développé par le consulat général d'Indonésie à Johor Bahru. En utilisant la fonction de plainte de plateforme, les membres du Conseil peuvent transmettre les problèmes des citoyens indonésiens dans leurs zones électorales directement au consulat général indonésien à Johor Bahru pour traitement. Depuis son lancement en avril 2023, Sigit a déclaré que Satria avait reçu 2229 plaintes avec un pourcentage de résolution des plaintes atteignant 90%. C'est Jurita, c'était l'Acquis Diplomatique pour ce soir. C'est Jurita, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée mondiale de l'arbre. La Journée mondiale de l'arbre est célébrée chaque 21 novembre dans le but de sensibiliser à l'importance du reboisement et de la conservation de l'environnement. La Journée mondiale de l'arbre a été initiée par Julius Sterling Morton, un amoureux de la nature des États-Unis. Morton, en 1854, a déménagé de Michigan au Nebraska, une région nouvellement formée sans arbres. Il a réalisé l'importance des arbres pour améliorer la qualité de l'environnement dans une région en grande partie aride. En 1872, lors de la réunion du Conseil des États-Unis du Nebraska, Morton proposa de réserver une journée pour planter des arbres. La proposition a été approuvée et la plantation d'arbres a eu lieu le 21 novembre. Il a ensuite été convenu que la Journée mondiale de l'arbre serait célébrée tous les 21 novembre. La première célébration de la Journée de l'arbre a eu lieu en Espagne. Nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 novembre et célébré comme la Journée mondiale de la télévision. La Journée mondiale de la télévision est célébrée chaque 21 novembre. La Journée mondiale de la télévision est célébrée comme une forme de reconnaissance du fait que la télévision a un impact important sur la prise de décision et qu'elle est une ambassadrice de l'industrie du divertissement. La télévision est reconnue comme un symbole de communication et de mondialisation qui éduque, informe, divertit et influence l'opinion publique. La Journée mondiale de la télévision a été instituée en 1996 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les 21 et 22 novembre 1996, les Nations Unies ont organisé le premier Forum mondial de la télévision. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée mondiale du Maléo. Chaque 21 novembre est célébrée la Journée mondiale du Maléo. La détermination de la Journée mondiale du Malio a été réalisée par le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts en collaboration avec un certain nombre de partenaires le 21 novembre 2020 en résidence Bone Bolango, Gorontalo. Cette date était choisie par les militants de la conservation car le 21 novembre 2001, le premier poussin malio issu d'une éclosion semi-naturelle a été relâché avec succès dans le parc national Bogani Nani Warta Bone. Il s'agit d'un programme de sauvetage de malio mené par la Société de conservation de la faune sauvage et le bureau du parc national Bogani Nani Warta Bone. Sur la liste rouge publiée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, cet oiseau qui porte le nom latin de Macrocephalon malio est menacé d'extinction. La population a connu un déclin important au cours des dernières décennies. Macrocephalon malio est un animal indigène de Sulawesi protégé par la loi. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama janji untuk saling setia atas nama cita-cita jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya untukku. Telah ku coba saja, ku masih selalu merindu. Ribuan malam telah berlalu tanpamu. Sudah ku coba cari pengganti dirimu, tetapi segenap apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie. Et pour le titre, le ministère de l'Environnement souligne les stratégies clés de gestion des écosystèmes de troupes afin de réduire les émissions. Le ministère de l'Environnement a expliqué l'accent mis par l'Indonésie sur la réduction des émissions de tourbières, y compris les stratégies de gestion des écosystèmes de tourbières grâce à la surveillance des niveaux des eaux souterraines. La secrétaire de la Direction générale du contrôle de la pollution et des dommages environnementaux du ministère de l'Environnement, C.H. Neti Widayati, lors d'une discussion au pavillon indonésien de la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP29, en Azerbaïdjan, a déclaré mardi que l'Indonésie avait pour objectif de réduire le gaz à effet de serre, GES, de 29%, ou l'équivalent de 834 millions de COD équivalent par nos propres efforts en 2030. Comme indiqué dans le document de contribution déterminé au niveau national NDC. En dehors de cela, l'Indonésie a également un objectif de réduction des émissions de 1,186 millions de tonnes CO2 équivalent, soit 41% du niveau d'émission, lorsqu'elle obtient le soutien de la communauté internationale. Selon Neti, un élément important de cette stratégie de réduction des émissions est la gestion durable des écosystèmes de troupes où la surveillance des niveaux des eaux souterraines joue un rôle important. Selon elle, en gardant des niveaux optimaux des eaux souterraines, le processus d'oxydation de l'écosystème de troupes qui libère du carbone dans l'air peut être évité. Ce processus crée des conditions propices aux incendies. La surveillance des niveaux d'eau souterraine dans les écosystèmes de troupes est une stratégie permettant de garantir que l'écosystème reste humide et de prévenir les incendies de terre qui peuvent libérer de grandes quantités d'émissions. Neti a déclaré que la troupe est un écosystème très important qui doit être soutenu par des investissements dans les approches innovantes et solides pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre et gérer la résilience climatique. Selon les données du ministère de l'Environnement et des Forêts de 2017, la superficie de l'écosystème des troupes en Indonésie a atteint 24,667 millions d'hectares et constitue le quatrième plus grand écosystème des troupes au monde après le Canada, la Russie et les États-Unis. De ce vaste écosystème, le dépôt de carbone dans la troupe tropicale indonésienne atteignant 46 gigatonnes. Ces auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sepenuh hatiku, dayaku telah ada.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute.
Chers auditeurs, Cilacap dans l'ouest de Java propose des danses traditionnelles qui captivent le cœur. Cela s'appelle la danse Jalung Mas. Jalung Mas est l'acronyme des mots Jaipong et Calung Banyumas. On estime qu'elle est née vers les années 80. Cette danse a été créée par plusieurs artistes de Cilacap qui à cette époque suivaient une formation visant à explorer l'art traditionnel local comme source de création de nouvelles œuvres de danse. La danse Jalung Mas a été créée pour répondre aux besoins esthétiques de la danse Lengger Banyumas avec le gamelan Calung Banyumas et le Jaipong Sundani. Sejurita, la danse Jalung Mas dépend l'histoire de la vie d'une communauté de pêcheurs traditionnels. Les mouvements gracieux des danseurs reflètent la beauté des mouvements des pêcheurs attrapant du poisson. Le rythme des pas et les petites clochettes sur les costumes ajoutent à la beauté de cette danse. La danse Jalung Mas représente également la gratitude du peuple pour les produits makangza bondang. En dansant, les danseurs portent des vêtements traditionnels aux couleurs vives, décorés de paillettes et de perles dorées, ainsi que de petites cloches accrochées autour des costumes. Sejurita, la danse Jalung Mas est accompagnée de musique gamelan, le gamelan utilisé et le gamelan calung qui est unique à cette danse. Les instruments de musique qui se démarquent sont le sarong, le tambour et les trompettes avec le caractéristique distinctif ton aigu. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Kasihku hatiku untuk dirimu. Ku cinta kamu apa adanya, ku sayang kamu apa adanya. Tiada yang lain, hanya dirimu. Yakinkan diriku hanya untukmu. Ku cinta kamu,
ku sayang kamu.
Kamu tiada yang lain, hanya dirimu. Yakinkan diriku hanya untukmu. Teruslah menyayangiku, cintai diriku selalu, kasihku.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Sur ce milieu, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter l'Indonésie remporte le prix de meilleure ville touristique 2024, décerné par l'ONU Tourisme. Une fière nouvelle vient du tourisme indonésien. Il y a quelque temps, un certain nombre de villas touristiques d'Indonésie ont reçu des prix de l'Organisation mondiale du tourisme sous les auspices des Nations unies, l'ONU Tourisme. Le village touristique de Jatiluih, Bali, et le village touristique de Wukirsari, Yogyakarta, ont remporté le prix des meilleures villas touristiques par l'ONU Tourisme 2024. Ce prix a été remporté lors de la 4e édition des meilleures villas touristiques de l'ONU Tourisme 2024 qui s'est tenue en Colombie aux États-Unis le 15 novembre dernier. Le village touristique de Jatiluih, Bali et le village touristique de Wukirsari, Yogyakarta ont été sélectionnés avec succès parmi environ 260 candidats provenant de plus de 60 pays membres de l'ONU Tourisme. La ministre du Tourisme, Madame Widianti Putriwardana, dans sa déclaration à Jakarta samedi, a apprécié les prix décernés par l'ONU Tourisme à deux villas touristiques indonésiens qui ont réussi à faire partie de 55 meilleurs tourisme villas par l'ONU Tourisme 2024. Le programme de développement de villas touristiques est devenu ces dernières années le programme phare du ministère du Tourisme. Cela est aussi conforme à la vision de développement du village contenue dans la priorité nationale Asta Cita du cabinet rouge et blanc. Le ministre du Tourisme est optimiste que ce prix pourra inspirer d'autres villages touristiques d'Indonésie pour continuer à optimiser le potentiel de la richesse naturelle du patrimoine culturel et responsabiliser les communautés villageoises vers un tourisme plus inclusif et durable. Les meilleures villas touristiques ont été organisées pour sélectionner des villas modèles qui ont réussi à développer le tourisme en donnant plus de pouvoir aux communautés locales, en préservant les traditions et les patrimoines locaux. Selon les données, jusqu'en 2024, 245 villas seront devenus membres du meilleur réseau de villas touristiques. qui devrait faire partie du plus grand réseau mondial de villages touristiques. Le succès du village de Mlanggaran en 2021, du village de Panglipuran en 2023, et le village touristique de Jatilui et du village touristique de Bukirsari en 2024 à recevoir les prix des meilleurs villages touristiques est une forme de reconnaissance internationale de la qualité des villages touristiques en Indonésie. Chers amis, c'est à la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Kasihku
amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec moi Audrey. Et cette fois je vais vous présenter une chanson de Kla Project. Sergio Etar, Kla Project a été formé par Katon Bagaskara, chanteur, guitariste et bassiste. Lilo Romulo Rajadin, guitariste et chanteur. Adi Adrian, claviériste, pianiste et joueur de synthétiseur. Et Ari Burhani. Batteriste, le 23 novembre 1986. Le nom Kla lui-même a été obtenu à partir des initiales des membres du groupe, tandis que l'utilisation de la lettre minuscule A indique qu'il y a deux membres dont les initiales sont avec la lettre A, à savoir Adi Adrian et Ari Burhani. Chers amis, ils sortent leur premier album intitulé Kla en 1989. Cet album reçoit une nomination au BASF Award 1990 dans la catégorie pop rock. L'une des chansons à succès de cet album s'intitule Tentang Kita. Cette chanson créée par Katon Bagaskara raconte une histoire assez romantique mais accompagnée de sentiments de tristesse parce qu'on se souvient du passé avec quelqu'un de spécial dans la vie. Tout le monde a des souvenirs dans sa vie. Bonjour, je t'ai. Voici que la Project va chanter une chanson intitulée Tantan Kita. Bonne écoute.
Tetap setia sampai selama-lamanya.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.